V. Du soin de l'État pour la sûreté contre les ennemis extérieurs. Chapitre 5, 2. Essai sur les limites de l'action de l'État. Par Wilhelm von Humboldt, 1767-1835. Traduit de l'allemand, par Henri Chrétien en 1867. Revenons à notre sujet. En ce qui concerne la sûreté contre les ennemis extérieurs, j'aurais à peine besoin de dire un mot, si l'idée générale ne gagnait en clarté, en étant appliquée successivement à tous les objets individuels. Et cette application sera d'autant moins inutile que je me bornerai à examiner l'influence de la guerre sur le caractère de la nation, et qu'ainsi, je ne quitterai pas le point de vue que j'ai choisi comme dominant dans cette étude tout entière. Les choses ainsi considérées, la guerre me paraît être l'un des phénomènes les plus salutaires au progrès du genre humain, et c'est avec peine que je la vois disparaître de plus en plus de la scène. Sans doute, c'est l'extrémité redoutable qui fait que toute âme active s'éprouve, se retrempe en luttant contre le danger, le labeur, la peine, qu'elle se modifie par suite en une foule de nuances à travers la vie humaine, et qu'elle donne à la personnalité entière la force et la variété, sans lesquelles la légèreté n'est que la faiblesse, l'unité que le vide. On me répondra qu'à côté de la guerre, il existe encore d'autres moyens analogues de développement, qu'il est des dangers physiques dans beaucoup de professions, qu'il est, si je puis ainsi parler, des dangers moraux de toute nature, qui peuvent atteindre le grave et faire homme d'État dans son cabinet, comme le libre philosophe dans sa cellule solitaire. Mais il m'est impossible d'abandonner l'idée que dans ce cas-ci, comme toujours, toute entité purement intellectuelle n'est que la fleur plus raffinée d'une entité physique. Évidemment, le tronc sur lequel cette fleur peut naître vit dans le passé. Mais la pensée du passé s'éloigne sans cesse. Les hommes sur lesquels elle agit deviennent de plus en plus rares dans le peuple. Et même, sur cela même, son action devient plus faible. Les autres travaux, bien que dangereux, tels que la navigation, l'exploitation des mines, etc., sont plus ou moins dépourvus de cette idée de grandeur et de gloire qui se rattache si étroitement à la guerre. Et, en réalité, cette idée n'est pas chimérique. Elle repose sur la conception de la puissance supérieure. On s'efforce d'échapper à l'action des éléments, de subir leur puissance avec endurance plutôt que de la vaincre. Aucun homme ne doit se mesurer avec les dieux 13. Lefkur Libraket. 13 Goethe, Poésie, des limites de l'humanité. Le sauvetage n'est pas la victoire. Ce que le sort favorable nous envoie, et dont tire parti le courage, ou la sensibilité de l'homme, n'est ni le fruit, ni la preuve de la puissance suprême. Ajoutons que dans la guerre, chacun croit avoir le droit de son côté. Chacun croit venger une offense. Et l'homme simple, sous l'empire d'un sentiment, que, de son côté, même l'homme le plus civilisé ne saurait nier, songe bien plus à laver son honneur, qu'à prendre ce dont il a besoin pour vivre. Personne ne voudra me concéder que la mort du guerrier, qui tombe au combat, soit plus belle que la mort héroïque d'un pline audacieux, ou, pour citer des hommes que peut-être, on n'admire pas assez, que la mort d'un Robert ou d'un Pilâtre de Rosiers. Mais ces exemples sont rares. Et qui sait, si, outre cela, on en pourrait découvrir d'autres? Aussi n'ai-je choisi pour la guerre aucun cas particulièrement favorable. Qu'on prenne les Spartiates aux Thermopyles. Je demande à tout. Venant quelle est l'influence d'un tel exemple sur une nation? Je sais bien que justement ce courage, cette abnégation, peut se manifester, et se manifeste en effet, dans toutes les situations de la vie. Mais ira-t-on blâmer l'homme sensible, qui se laisse entraîner par ce qui est la plus vivante manifestation de ses sentiments? Peut-on nier qu'une telle manifestation agit du moins sur la foule en général? Et, malgré tout, ce que j'ai entendu dire de mots qui seraient plus terribles que la mort, je n'ai encore vu aucun homme qui jouit de la plénitude de la vie, et qui, à moins d'être un fanatique, méprise la mort. De tels hommes existaient encore moins dans l'Antiquité. En ces temps où l'on estimait encore la chose plus que le nom, le présent plus que l'avenir. Ce que je dis ici des guerriers ne s'applique qu'à ceux qui, moins éclairés que ceux de la République de Platon XIV, Lefkurlibraquette.14, car ceux-ci sont tellement éclairés, que la mort ne leur semble pas quelque chose d'atroce, mais le contraire. République 3. Mi. Right, Kurlibraquette. Prennent les choses, la vie et la mort, pour ce qu'elles sont, qu'à ces guerriers, qui, en face d'un but ultime, courent des risques ultimes. Toutes les situations où les extrêmes se touchent, pour ainsi parler, sont les plus intéressantes et les plus fertiles, en enseignement. Mais, où cela se réaliserait-il de plus forte manière, que lors de la guerre, dans laquelle le penchant et le devoir de l'homme, et celui du citoyen paraissent être en lutte continuelle, et où, cependant, toutes ces collisions trouvent la plus complète solution, pourvu que ce soit la légitime défense qui ait fait prendre les armes. Le point de vue où je me place, et qui seul me fait considérer la guerre comme salutaire et nécessaire, fait déjà voir suffisamment de quelle manière je pense qu'il faille en user dans l'État. L'esprit qui la soulève doit pouvoir avec certitude se répandre librement à travers tous les membres de la nation. Ceci est un argument tout d'abord contre l'institution des armées permanentes. De plus, ces armées et tous les procédés modernes de faire la guerre sont bien loin de l'idéal qui serait si utile pour le progrès de l'homme. S'il faut déjà que le guerrier fasse d'une manière générale le sacrifice de sa liberté et qu'il devienne une machine, pour ainsi dire, il en est ainsi à un bien plus haut degré, dans nos guerres contemporaines, où la part de la force, de la bravoure, de l'habileté individuelle, est si restreinte. Combien cela doit être néfaste si des parties considérables de la nation sont retenues dans cette vie mécanique pendant la paix, et seulement en vue d'une guerre possible, non pas durant quelques années, mais souvent pendant leur vie entière. Peut-être est-ce ici plus que partout ailleurs le cas de dire qu'avec le développement de la théorie des entreprises humaines, celles-ci perdent de leur utilité pour ceux qui prennent part. Il est incontestable que l'art de la guerre a fait chez les modernes d'immenses progrès. Mais il est aussi incontestable que la noblesse du caractère des guerriers est devenue plus rare. On ne le rencontre dans son ultime beauté que dans l'histoire de l'Antiquité, ou du moins à supposer que l'on voit ici une exagération chez nous, trop souvent l'esprit guerrier n'entraîne que des conséquences fâcheuses pour les nations, tandis que dans l'Antiquité, nous le voyons bien souvent en produire de fort salutaire. Mais nos armées permanentes apportent la guerre jusqu'au sein de la paix, si je puis ainsi parler. Le courage et la discipline militaire ne sont honorables que quand ils s'allient, celui-là aux plus belles vertus de la paix, celle-ci au profond sentiment de la liberté. S'ils s'en séparent, et combien cette séparation n'est-elle pas favorisée par le soldat armé en temps de paix? La discipline dégénère facilement en esclavage, l'esprit militaire en sauvagerie et en brutalité. À côté de cette critique des armées permanentes, qu'il me soit permis de rappeler que je n'en parle ici qu'autant que mon point de vue l'exige. Loin de moi la pensée de méconnaître leur grande et incontestable utilité. C'est cette utilité qui les fait résister aux causes de dissolution provenant des vices qui leur sont inhérents et qui les entraîneraient, comme toutes les choses humaines, à une perte irrésistible. Elles sont une partie de l'ensemble construit, non par les vaines conceptions de la raison humaine, mais par la main sûre de la destinée. Ce serait la tâche d'un historien futur, qui entreprendrait de nous comparer d'une manière impartiale et complète, avec une époque plus reculée, ce serait sa tâche de dépeindre l'influence des armées permanentes sur tous les faits propres à notre temps, et leur part de mérite et de responsabilité dans le bien et le mal qui peut nous distinguer. Mais il faudrait que j'eusse été bien malheureux dans l'exposition de mes idées, si l'on pouvait en conclure que, suivant moi, l'État doit de temps en temps provoquer une guerre. Qu'il donne la liberté, et que l'État voisin jouisse de la même liberté. En tout temps, les hommes sont hommes, et ne perdent point leurs passions originelles. La guerre naîtra d'elle-même. Et, si elle ne naît point, on sera du moins certain que la paix n'est, ni imposée par la force, ni produite par une paralysie artificielle. De cette manière, la paix des nations sera un bien aussi supérieur, en bienfaisance que l'image du laboureur paisible est plus douce que celle du guerrier couvert de sang. Et, si l'on songe au progrès de l'humanité entière fait par chaque génération, il est sûr que les temps à venir deviendront toujours plus pacifiques. Mais alors la paix proviendra des facultés intérieures des êtres, et les hommes, et surtout les hommes libres, seront devenus pacifiques. Aujourd'hui l'histoire de l'Europe, pendant une année le prouve, nous jouissons des fruits de la paix, mais non de ceux du calme. Les forces humaines tendant toujours à une action, pour ainsi dire infinie, du moment qu'elles se rencontrent, s'unissent ou se combattent. Quelle forme prendra le combat? Sera-ce la guerre, ou la concurrence, ou telle autre nuance quelconque? Cela dépendra surtout du degré de raffinement des facultés humaines. Si je dois maintenant tirer de ce raisonnement un principe servant à mon but final, alors l'État ne doit en aucune manière promouvoir la guerre. Il doit aussi peu l'empêcher violemment, quand la nécessité la réclame. Il doit laisser son influence sur l'esprit et le caractère s'exercer en complète liberté sur toute la nation. Il doit surtout s'abstenir de toute prescription positive pour former la nation à la guerre. Ou, du moins, quand elles sont absolument indispensables, comme par exemple les exercices militaires des citoyens, il doit leur donner une direction, telle qu'elle ne se borne pas à produire la bravoure, l'habileté et la subordination du soldat, mais qu'elles inspirent l'esprit du vrai guerrier, ou plutôt du noble citoyen toujours prêt à combattre pour sa patrie. C'était du soin de l'État pour la sûreté contre les ennemis extérieurs. Fin du chapitre 5.